Radio Spirale. Aujourd'hui, une causerie avec Antonine Maillet, à l'occasion de la parution de son livre « Fais confiance à la mère, elle te portera ». Elle s'entretenait avec Marie-Josée Roy, son éditrice. L'entretien avait lieu à la librairie Olivieri le 20 octobre 2010.
Bonsoir, mesdames, messieurs. Je veux d'abord saisir l'occasion de vous remercier d'entrée de jeu. Vous êtes nombreux, nombreuses à vous être déplacées pour célébrer avec nous la sortie de ce nouveau livre d'Antonine Maillet. « Fais confiance à la mère, elle te portera ». D'abord, remercier aussi la librairie, d'abord et avant tout la librairie Olivieri, de nous accueillir tous, vous comme nous, des éditions Le Méac, qui avons envie d'avoir cet échange avec Antonine devant vous, pour vous donner envie évidemment de lire ce livre que nous avons eu beaucoup de plaisir et un grand enthousiasme à éditer, à publier. Donc, nous y voici, Antonine Maillet, à ce moment de célébrer la sortie du, j'essayais de compter tout à l'heure, Antonine, et là, je ne me suis pas rendue, du 50, combien?
Je ne sais pas. Ça fait quelques années ou quelques 53. Livres que je dis 50, ça doit faire ça.
C'est donc la sortie du 53e livre. Ah, hein. 53e, c'est Lise qui l'affirme. C'est ce que j'avais. Les prémices de la thèse, donc 53
non, 54. 54.
54, on compte la thèse aussi bien.
C'est parce que c'est pas chez Le Meilleur, c'est pour ça. C'est ça.
Donc, 54e livre, et pourtant, si dans les livres précédents, il vous était arrivé, à plus d'une occasion d'ailleurs, de mettre en scène les processus de la création, de mettre en scène les dynamiques de l'écriture, les dynamiques de la création. Je pense à, par exemple, le mystérieux voyage de Rien, où il y avait ce personnage qui était créé par l'auteur. Il y a aussi Shakespeare qui est confronté à ses propres personnages dans William S. Donc, vous avez mis en scène parfois ces processus de la création, mais c'est la première fois, au 54e livre, que vous interrogez la grande question, donc, pourquoi est-ce que j'écris? C'était la toute première fois. C'est la première fois que vous allez donc du côté des coulisses, en arrière du rideau, pour voir ce qui se passe en arrière du rideau quand vos personnages s'agitent sur la scène. Une toute première. Est-ce qu'il fallait vous éloigner de la fiction pour arriver à mieux répondre à cette
question? En d'autres mots, c'est une question que vous voulez que je réponde. C'est ça. C'est parce que j'ai pas l'habitude. D'habitude, je parle toute seule. Hein? Et je suis d'autant plus mal à l'aise que je suis jamais assise quand je parle. Je sais que la moitié des gens me voient pas et moi je les vois pas non plus.
Mais si on se met debout, les micros ne seront plus.
Non, le problème c'est qu'on n'a pas tout à fait la même taille, elle et moi. Bon, alors en fait, tout a commencé avec elle. Parce que moi, j'avais jamais pensé écrire un livre à la première personne. La première personne, d'habitude, vous savez qui c'est. Alors, je mets tout le temps ma personne dans la personne de d'autres et puis je raconte à la deuxième ou troisième personne. Mais voilà qu'un jour, à un salon du livre, mon éditrice et la nouvelle directrice de mon livre me dit « Mais vous n'avez jamais pensé ou tu n'as jamais pensé d'écrire pour l'écritoire. L'écritoire, c'est une collection. » Bon. Et dans cette collection, on demande à des auteurs, je ne dis pas qu'ils ont un certain âge, mais qu'ils ont une certaine œuvre derrière eux, de répondre à la question « Pourquoi écrivez-vous ? » Alors, c'est la première fois que je réponds à cette question-là sur 250 ou 230 pages. Voilà.
Voilà. Et je me rappelle notamment que ce qui m'avait particulièrement séduite ce jour-là, quand on avait eu cette discussion-là, c'est que vous me racontiez à ce moment-là que toute jeune, évidemment, la voisine qui venait garder les enfants à la maison, Alice, racontait des histoires. Vous dites même dans ce livre-ci, je pense que vous l'avez dit également parfois en entrevue, c'était probablement chez vous un critère d'embauche pour venir travailler à la maison que d'être bon conteur, que de savoir raconter des histoires. Et donc, cette Alice, cette voisine, racontait des histoires. Et vous avez eu cette expression qui m'avait vraiment fait sourire. Vous avez dit ce jour-là, il y a un jour où j'ai compris que quand on racontait des histoires, on avait le droit de mentir. Alors qu'enfant, vous n'aviez pas le droit de mentir. Donc là, on vous accordait par le conte, par la littérature, c'était une façon de, d'avoir le droit d'entrer dans cette fiction-là, que de mentir.
Oui, ça, je suis obligée de la corriger un petit peu, parce que moi, il ne faut jamais que je mente maintenant. J'ai menti assez quand j'étais enfant. Alors, en réalité, Alice ne travaillait pas chez moi. On avait une servante, pas des servantes, une à la fois, parce que ma mère a mis beaucoup d'enfants au monde. Et à ce moment-là, mais il fallait qu'on ait une servante. Mais un critère d'embauche, c'était absolument ça. Dans le curriculum vitae de la servante, il fallait qu'elle sache conter des histoires. C'était la seule façon de garder cette maisonnée tranquille après telle heure. Alors, Alice était une voisine. Puis quand il n'y avait pas de servante, eh bien, il y avait toujours la voisine. Et moi, la famille adorait que j'aille chez le voisin. Je vous demande pas de comprendre pourquoi. Et moi, quand on voulait me se débarrasser un petit peu du tapage que je menais dans la famille, bien, on me laissait me glisser sous la clôture pour me sauver chez le voisin. On me regardait aller, bien entendu. Et alors, Alice, un jour, m'a raconté les trois ours. Et les trois ours, j'ai compris que j'étais dedans parce qu'il y avait boucle d'or. Alors, vous voyez que c'est ma couleur naturelle, ça, là. J'étais bouclée et dorée. Alors, j'étais boucle d'or. Donc, moi, j'allais chez les trois ours et j'étais la petite héroïne de l'histoire. C'est pourquoi j'ai compris à ce moment-là, en entrant dans l'histoire, comment se faisait une histoire. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une vie parallèle. Il y avait ma vie, puis celle que je pouvais vivre si j'entrais dans l'histoire. Ce jour-là, j'ai compris, d'abord, que j'avais le droit de mentir, et deuxièmement, que je m'étais trouvé du travail, une profession pour la vie. C'était d'entendre des histoires et d'en raconter. Parce que si je pouvais, avec Alice, rentrer dans les trois ours, puis que le lendemain, Alice m'a raconté le petit poucette, puis après ça, il y a eu le chaboté. Mais j'ai compris que je pouvais aller avec le petit poucette chez le chaboté, rentrer chez les ours. Donc, je pouvais tout mélanger ces histoires-là et en faire une autre. L'écrivain était né. J'avais 3 ans. Je le sais pourquoi j'avais 3 ans. C'est parce qu'il y avait 3 ours. Puis je me suis dit, l'année prochaine, il y aura 4 ours. Je fais toujours des réponses longues aux questions courtes.
C'est bien, c'est très bien, c'est parfait. Comme ça, je parlerai moins, moi. Si on revient un petit peu à la forme qu'a pris ce livre-là, c'est un livre, et les premiers critiques l'ont remarqué, qui emprunte beaucoup la même écriture, la même langue que vos romans. C'est un livre qui a été écrit beaucoup de façon instinctive. Vous le dites dans le livre, ça s'est fait à tâtons et à rebours. Un peu en spirale aussi, il y a la figure de la spirale qui est évoquée à un moment donné pour évoquer ces allers-retours, enfin cette façon de revisiter un même motif ou un même thème. C'est un livre qui est écrit aussi sans retenue. Vous dites à un moment donné, je ne vais pas me priver, laissez-moi 1000 mots pour dire une chose, même si je pouvais le dire en 100, j'ai besoin de 1000 pour le faire. Et c'est surtout un livre donc dans lequel vous explorez beaucoup de pistes pour répondre à cette question-là. Donc, il y a beaucoup de pistes qui sont abordées. Il y en a certaines qui sont surprenantes. Il y en a certainement quelques-unes qu'on pourra présenter à vos lecteurs ce soir. Et je vous ai entendu dire, donc, à chacune de ces pistes-là que vous explorez, vous le faites vraiment en exploratrice, en découvrant au fur et à mesure de l'écriture ce que vous pourriez bien découvrir là, dans cette piste-là. Vous n'avez pas écrit ce livre de manière rétrospective. Voici ce que j'ai à dire sur ce que c'est écrire. Ça n'est pas une thèse, ça n'est pas un essai où, du haut de vos 54 titres, ou 53 puisque celui-ci est le 54e, du haut de vos 53 titres, vous auriez dit « voici ce que c'est que d'écrire ». Pas du tout, vous êtes dans l'exploration dans ce livre-là. Et je vous ai entendu dire cette semaine en entretien que vous étiez même étonné de voir qu'il y avait le mot « essai » sur la couverture du livre.
Mm-hmm. Oui. J'ai été tellement étonnée parce que jamais dans ma vie j'aurais pensé faire un essai. Parce que le modèle suprême, magistral de l'essai, c'est Montaigne. Et j'ai tellement de respect pour les auteurs du 16e siècle, d'abord Rabelais, puis ensuite Montaigne, que jamais j'aurais voulu aller sur ses brisées, comme il aurait dit lui-même. J'aurais pas pensé faire un essai. Sauf que quand on y pense, tout ce que Montaigne faisait, c'est ce que je fais. Et sans m'en rendre compte, j'avais jamais pensé faire comme lui. Mais quand on pense que Montaigne avait simplement écrit ce qu'il pensait, comment il était, ce qu'il avait à dire, lui, surtout, alors il s'est dit, je fais des essais, j'essaye de m'exprimer dans un sens. Il savait s'exprimer, laissez-moi vous dire. Mais le mot est resté, essai, au point que les essais anglais viennent du mot essai, alors que le mot essai en anglais, c'est to try, et non pas essayer. Alors, ils n'ont pas mis a try, ils ont mis un essai. Alors, le mot est resté. Bon, ça a été le maître de l'essai. Et quand j'ai vu qu'on avait, on m'avait mise dans la catégorie des essais, et je me suis dit, oui, au fond, j'ai retrouvé dans le même sens que Montaigne, il essayait, simplement. Il a plongé en dedans de lui, puis il a dit, je vais vous dire comment je suis, je vais vous dire ce que je pense, je vais vous dire ce qu'est un homme, c'est-à-dire ce que moi je suis, donc c'est comme ça que sont les autres. Alors, il a découvert l'homme, l'humanité, la vision des choses, à travers sa propre vision à lui, il s'est étudié lui-même pour montrer comment on pouvait être. Alors, sans le savoir, c'est pas ça que j'ai voulu faire, mais c'est ce que j'ai fait.
Et voilà. Et vous dites que Montaigne a donc plongé en lui, ce qui nous ramène à ce titre magnifique, « Fais confiance à la mer, elle te portera ». Je vais vous laisser vous raconter d'où vient cette phrase.
C'est le temps que je me lève. Je suis pas capable. Je suis désolée, mais je suis pas capable de parler.
C'est vrai que je peux rester assise.
Vous avez dû le constater déjà. Bon. Alors, un jour, mon père m'a dit, puis souvent je ferai référence dans mes livres à ce que mon père a dit. J'ai ici de la famille, j'ai ici de la parenté très proche. 3 neveux, nièces et une 4e petite nièce. Et si le dernier bébé voulait venir, j'aurais des arrières. Laissez-moi vous dire, j'en ai des arrières. J'ai une très nombreuse famille. Je les salue, ce sont des Maillets comme moi. Et ils savent ce qu'était mon père. Et mon père me disait souvent des choses à l'envers. Ou si vous voulez, il les disait de... Alors, c'est pourquoi ne vous demandez pas pourquoi je parle tout le temps à l'envers. Je dis les choses autrement. J'aime pas la banalité. C'est la pire des calamités pour moi, c'est la banalité. Alors, je m'arrange pour que la banalité devienne poétique dans un certain sens. Donc, mon père avait le tour de dire des choses profondes et des choses essentielles en les rendant comme si c'était des choses de tous les jours. Et une fois, il m'a dit, si jamais tu tombes à l'eau et que tu ne sais pas nager, fais confiance à la mer, elle te portera. Bon, je savais que mon père savait que je savais nager. Ça ne se peut pas qu'une fille de la mer ne sache pas nager. J'ai appris à nager avant d'apprendre mes lettres et tout ça, oui. Alors, j'ai compris qu'il est en train de me dire plus que ça. Et le jour que je l'ai vraiment compris, ben je l'avais compris un petit peu avant, mais un jour, figurez-vous, à cause de ce sacré Goncourt, j'étais invitée mise dans des situations qui étaient assez difficiles. Une fois, on me donne un doctorat honorifique à l'Université de Toronto, et sans m'avertir, ou on avertit, la secrétaire était censée m'avertir, mais il y a quelqu'un qui n'a pas averti. Et quand je montais avec ma toge sur l'estrade de Toronto devant 1000 personnes, quelqu'un me tire par la manche pour me dire « The president asks not to speak more than 10 minutes. » J'ai dit « Mais speak, oui, vous faites le discours, votre discours. » Mais j'ai dit « Quel discours ?» Ben, le discours au nom des docteurs, on était 5 docteurs, tous des hommes et tous des anglophones, la seule femme et la seule francophone, c'était moi, et c'est moi qui allais faire le discours, et on ne m'avait pas averti. Là, je montais les 3 marches, puis je pensais, je peux tomber en bas et me casser une jambe. Ça réglerait le problème, mais je trouvais que c'était une façon pénible de régler un problème. Alors, j'essayais de trouver s'il n'y avait pas une autre solution. Et je me suis dit, là, ils vont probablement passé tous les diplômes, les baccalauréats et les maîtrises avant les docteurs. Ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il y avait 1000 personnes là. Alors, je me suis dit, j'aurai le temps de penser à ce que je pourrais dire. Mais non, ils ont commencé par les docteurs. C'était mon jour. Alors là, j'ai pensé, puis je n'avais jamais fait un discours en anglais avant. Je parlais anglais, mais je n'avais pas fait de conférence ou de discours. Et là, il fallait que j'improvise en anglais devant l'élite canadienne des universitaires. Et je me suis dit, il n'y a rien qu'une façon de m'en tirer. C'est qu'il faut que je trouve une formule qui fasse en sorte que ça soit « punch » et que tout le monde va écouter. Puis une fois qu'ils m'écouteront, là, je pourrai leur parler. Mais il faut que je fasse ça. Quelle était la formule? J'avais quelques secondes pour la trouver, là. J'étais déjà rendue devant le micro, là. J'ai dit « One day my father told me « If ever you fall in the water and you don't know how to swim, trust the sea, it will carry you. » Puis je l'ai dit à peu près sur ce ton-là. Mais ils m'ont tous regardé. « Hey, c'est bon, ça! » Une fois qu'on a dit ça, puis là, j'ai ajouté, naturellement, mon père savait que je savais nager. Alors, j'ai compris qu'il voulait dire autre chose. J'ai compris qu'est-ce qu'il y a de plus grand que la mer, ou qu'est-ce qu'il y a que la mer symbolise, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel, dont le symbole est la mer. C'est la vie. Alors, si jamais t'es mal prise dans la vie, et je l'étais, fais confiance à la vie, puis elle te portera. Mais j'étais en train de bâtir mon discours pendant que je parlais, Puis il fallait que j'arrête au bout de 10 minutes. Mais là, il a fallu m'arrêter parce que j'étais partie. Alors voilà comment j'écris.
Et c'est quand même pas mal parce que là, vous avez fait 10 minutes cette fois-là. Et ici, combien on a fait de pages avec ça?
230.
230 pages. Donc ça aurait pu durer pas mal plus que 10 minutes, finalement.
Oui. Alors c'est tout pour répondre à la question de mon père, finalement. C'était cet élan qu'il m'a donné alors que j'étais très jeune. Et voilà qu'aujourd'hui, je retourne à cette phrase, puis je dis, oui, quand on est, tous les problèmes qu'on rencontre, si seulement on pouvait faire confiance à cette vie qui est devant nous. Alors, écrire, ben c'est là. Là, ce qu'on a fait de moi, là, c'était exactement la même chose que ce jour de Toronto. On m'a dit, écris. Fais un livre pour répondre à une question, pourquoi écrivez-vous? Mais c'est énorme, cette question. Mais oui, mais comment répondre tant que ça? Alors, je ne pouvais pas me dire, bon, je vais commencer à le grand A, le grand B, le grand C, les petits A, petit B, petit C, puis tout ça, faire une dissertation, comme on faisait en belles-lettres. Ça aurait été mortel. Si j'avais procédé comme ça, faire une dissertation sur le thème « Pourquoi écrivez-vous », je vous assure que vous n'auriez pas acheté le livre. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à dire, moi? Qu'est-ce qui est moi? Bien, moi, c'est un écrivain qui improvise. Comme quand je vous parle, en ce moment, j'improvise. Ça veut dire, je vais chercher ce que j'ai à dire d'essentiel. Puis, pour aller le chercher, il faut que je creuse. Il faut que je creuse au point de trouver les sucres, pas les sucres, mais les sucres, que les racines de l'arbre vont trouver quand ils plongent, creusés. Comment se fait-il que quand on a une forêt devant nous, il n'y a pas deux arbres exactement pareils, même pas deux bouleaux exactement pareils. Mais surtout, s'il y a un bouleau à côté d'un tremble, à côté d'un érable, là, c'est encore plus différent. Donc, qu'est-ce qui fait que ce sont tous des arbres et que quand on regarde la forêt, c'est une forêt qu'on voit. Mais chaque arbre est tellement différent de l'autre, et pourtant, ils ont tous plongé leurs racines le plus profond possible pour atteindre les sucs qui sont en dessous, cette espèce de fluide en bas, là, c'est ce liquide qui circule et qui va nourrir les arbres. Alors, je me dis, en dedans de moi, si je plonge mes racines assez profondément, je vais trouver les essentiels de ce qui est l'être humain. Mais pour ça, il faut que j'aille creuser assez pour trouver ce qui vous caractérise vous aussi. C'est-à-dire que tous, nous sommes des individus comme un arbre, mais tous nous faisons partie d'une catégorie d'individus comme l'érable, l'érablière, la hêtrière. Alors, mais tous aussi, nous dépassons cette forêt-là pour aller jusqu'à tout ce qui a été créé dans l'univers. L'écrivain, il n'a pas le choix. C'est épouvantable ce que je vous dis là. Mais c'est vrai. Si l'écrivain se rend à l'âge que j'ai, puis s'il veut avoir écrit 54 livres, puis s'il veut continuer à les faire tous différents, il est obligé d'aller creuser pour ne jamais répéter la même chose qui sera la même chose pourtant répétée infiniment. Là, j'ai fait une phrase qui est très mal faite, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je veux dire que on va toujours écrire le même livre, puis vous n'en apercevrez pas. Le seul qui le saura, c'est l'écrivain. Il répète son même livre, dit différemment, comme si tous les érables étaient toujours le même érable, mais en réalité, il n'y en a pas deux qui sont exactement pareils. Alors, quand j'ai compris que c'est ça que j'étais appelée à faire, et puis je l'ai compris en allant répondre à la phrase de mon père, et quand on m'a demandé, bon, pourquoi écrivez-vous? Au début, j'étais un petit peu rébarbative, puis tout à coup, j'ai compris. Non. C'est ça la question essentielle. Parce que, pas seulement je vais... Il y a une place juste là. Pas seulement la question, je vais pas seulement répondre pourquoi j'écris, mais je vais trouver pourquoi tout le monde écrit. Pourquoi finalement on vit? Pourquoi on a espoir? Pourquoi on n'est pas tous déjà morts? Parce qu'un écrivain est celui, l'artiste est celui qui refuse de mourir. Parce qu'il ne va jamais mourir, étant donné qu'il va recréer continuellement de la vie. Et cette vie-là va se continuer. Laisse-moi me reposer, puis continue.
Mais moi, je ne parlerai pas aussi longtemps, ça c'est sûr. Maintenant, le défi, c'est de faire les liens à partir de tout ce qui vient d'être dit. Il y a plusieurs images dans ce que vous venez d'évoquer avec la forêt, avec les racines qui plongent bien creux. Je voyais aussi les rhizomes des arbres qui aussi communiquent entre eux parce que vous dites on plonge et à chaque fois, à chaque plongée, on en remonte une œuvre unique et qui pourtant est toujours la même. Ce qui me dit que toutes ces œuvres-là, tous ces arbres-là communiquent entre eux aussi par les rhizomes, vous savez, ces racines qui sont les mêmes, ces racines qu'on partage. Enfin, ça, c'est toute une autre image que j'avais absolument pas planifiée, qui est pas du tout dans les notes qui sont devant moi. Mais j'allais dire, on avait parlé donc de cette mère, fais confiance à la mère, elle te portera. Vous parlez de plonger et justement, l'image du titre, la mer dans laquelle il est question de plonger, c'est à la fois la vie, c'est aussi les eaux de l'enfance parfois, parce que dans l'exercice de ce livre-là, vous êtes retourné aussi visiter, non pas forcément l'enfance, mais les personnages qui étaient déjà là, que vous avez croisés pendant l'enfance et qui ont nourri ensuite vos romans. Donc ce sont les eaux de l'enfance, c'est aussi beaucoup les eaux de la mémoire, les eaux, et là je pourrais continuer longtemps, normalement vous devriez reprendre le relais.
Je reprends. Elle m'a lancé. Justement, imaginez maintenant un écrivain qui, dans son enfance, ne pouvait pas, pouvait imaginer qu'elle pouvait faire n'importe quoi sauf ça. C'était un domaine qui m'était interdit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y avait pas un seul écrivain en Acadie quand j'ai commencé à écrire. Quand j'entends par écrivain, je veux dire un créateur, un écrivain de fiction et qui dépasse les frontières de son pays. Il n'y en avait pas. Il y avait eu Napoléon Landry qui faisait des poèmes élégiaques. Il y avait des nationalistes qui écrivaient dans des revues. Il y avait des écrivains qui n'étaient pas des créateurs, mais qui exprimaient des idées. Mais il n'y avait pas eu une littérature, ce qu'on appelle de la littérature. Puis tout de suite, je vous dis ce que j'entends, moi, par de la littérature. Ça veut dire que notre vie est trop courte. Notre monde est trop petit. On dépasse nos propres ambitions. On est capable d'aller plus loin que ce qu'on rêve de devenir. C'est ça qu'est le besoin de la littérature. La littérature, ça veut dire transposer l'être. L'être qui est un individu. Un individu qui fait partie d'une collectivité qui serait, par exemple, une culture. Une culture qui fait partie d'un plus vaste domaine qui est une civilisation. Puis une civilisation qui fait partie de l'humanité. Bon, nous, nous sommes des individus. Nous faisons partie de cette culture dite française. La culture française fait partie de la grande civilisation gréco-latine. Depuis les Grecs, on descend de cette culture, de cette civilisation. Il y a à peu près eu 13 civilisations qu'on a pu compter jusqu'à maintenant. Ça, je ne fais pas la savante, je veux simplement vous mettre en perspective. Après ça, ben, cette civilisation, elle fait partie de l'humanité. Toutes ces civilisations, c'est l'humanité. Et on fait partie, plus loin que ça, de la création. Il y a les plantes aussi, il y a les animaux aussi, il y a tout ça. Mais comme individu, on est en communication avec son peuple, avec sa culture, avec sa civilisation, avec l'humanité et avec la création. Là, je pense que je vous mets en appétit pour comprendre ce qu'est la littérature. Si j'étais peintre, ou si j'étais musicien, ou si j'étais architecte ou sculpteur, je vous parlerais dans les mêmes termes, mais au lieu de dire littérature, je parlerais de ces arts-là. La création dans l'art, c'est un agrandissement de ce que Dieu n'a pas réussi à faire en 6 jours. C'était beaucoup trop court. Et surtout qu'il est allé se reposer le 7e, le fainéant. Et il a cru qu'il avait tout réussi. Bon, c'est une façon... Là, je sais que mon père n'aurait pas dit ça comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, il nous a laissé ce 8e jour à nous pour poursuivre cette création inachevée. Et si elle était achevée, on ne ferait pas de la littérature. Parce que la littérature, c'est pour recréer ce qui n'a pas été fait. C'est ça, l'art. Et c'est ça qu'il faut dire à M. Harper, là. L'art, c'est beaucoup plus important que l'économie, parce que c'est ça qui va donner une dimension à l'homme, à l'humain. Mesdames, quand je dis homme, vous savez que vous êtes là-dedans. Messieurs, quand je dis femme, vous n'êtes pas là-dedans. Alors, cette dimension qu'on est capable de recréer du neuf, on est capable de continuer la création. On est capable de la poursuivre, de l'agrandir en faisant Mozart, en faisant des sons qui ne sont pas dans la nature. Il a combiné des sons de la nature, puis il en a fait des nouveaux. Voilà, Mozart a créé du neuf que Dieu n'avait pas fait. Puis on ne blâme pas Dieu de ne pas l'avoir fait. Heureusement qu'il nous a laissé ça au moins. Et la littérature, c'est ce qui continue, qui augmente, qui agrandit. Il n'y a pas de Hamlet assez grand chez tous les jeunes Hamlet qui crient leur « to be or not to be » tous les lundis matins. Là. Non, non. Il n'y en a pas un seul qui va à la cheville de celui qu'a créé Shakespeare et qui n'a jamais existé. Il n'y a pas un Don Quichotte qui va au genou de ce Don Quichotte qu'a créé Cervantes et qui n'a jamais existé. Donc, les grandes créations sont je ne dis pas plus grande, mais elle donne une autre dimension à la vie réelle dans laquelle on vit. C'est ça, la littérature. Grande réponse. Là, ben, j'ai bifurqué, mais en réalité, c'est pourquoi ce n'était pas possible pour moi de faire ça, parce qu'il n'y en avait pas dans mon pays. Il n'y avait pas d'écrivain acadien, ni écrivain, ni écrivaine. Et il n'y avait pas de collège pour les filles quand j'étais en âge d'y entrer. Il s'est ouvert 1-2 ans avant que j'arrive, justement. Il n'y avait pas d'université pour garçons et filles en français, en Acadie. Il y avait un ministère d'éducation dont le ministre s'appelait Peacock, ça vous en dit assez, ça? Et puis, il nous donnait des livres de classe, des grammaire française, oui, pour étudier notre français. Et la grammaire était écrite par Fraser and Square. How square can you get? Alors là, vous avez une idée dans quelle situation je me trouvais. J'étais dans cette situation-là que je devais apprendre « j'ai, tu as, il a ». Nous avons, vous avez, ils ont, dans Fraser and Square. Puis pour blaguer, nous autres, on disait « j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont hein? ». C'était la langue qu'on parlait tous les jours, mais il fallait l'apprendre en anglais. Apprendre sa langue en anglais, dans la langue d'un autre. Je veux simplement que vous compreniez dans quelle situation. Mais voulez-vous savoir? J'avais aucune chance. Puis c'est ça qui a été ma chance. La chance, c'est de ne pas avoir de chance. Un jour, quand il y a quelqu'un qui m'a dit « Quelle chance vous avez de venir de Bouctouche ?» J'ai dit « La chance d'être de Bouctouche ?» Bouctouche, il y a 3000 habitants à propos. Hein? Et ils vont en avoir 6000 l'année prochaine parce qu'on va faire nous autres aussi des annexes, des annexions. Alors, lui, j'ai dit « Et vous, vous venez d'où ?» Il dit « De Bordeaux. » Oh. Et c'est moi qui ai la chance. J'ai dit, nous, on fait du vin de pissenlit hein, à Bouctouche. Et j'ai la chance d'être de Bouctouche, monsieur de Bordeaux. Il dit, oui, mais il dit, moi aussi, je suis un écrivain. Puis il dit, avant moi, à Bordeaux, sont passés les trois grands M. Montaigne, Montesquieu et Mauriac. Mauriac, c'est pas si grand que ça. Mais enfin, donnons-les pour Montaigne et Montesquieu, au moins. Alors, ça, c'est le professeur qui parle. Excusez-moi. Là. Alors, lui, il dit, puis vous, vous êtes la seule M de Bouctouche. Mais là, j'ai compris. J'ai compris. J'avais déjà compris beaucoup de choses avant, mais là, j'ai compris davantage. C'est-à-dire que j'ai un terrain vierge, moi. Bouctouche, personne n'en a parlé. Pour que le nom de Bouctouche soit écrit dans un livre, il a fallu que j'écrive le livre. Vous comprenez ça? On lisait les livres qui venaient de France, quelques-uns qui venaient du Québec. Donc, on connaissait beaucoup mieux la Provence et le Poitou et Paris qu'on connaissait Bouctouche. Hein? Nous, alors, c'est dans ce sens-là. Il fallait que j'écrive ce qui n'avait jamais été fait. Mais pire que ça, il fallait que je le fasse dans une langue que je ne maîtrisais pas. Puis quand je vous dis ça, je maîtrisais une langue qui était française, mais qui n'était pas celle de l'Académie. Au point qu'un jour, quand, là je fais une petite parenthèse, quand le secrétaire perpétuel de l'Académie française m'a dit « Antonine, je vais vous faire un grand plaisir. » Ah, je suis ravie. Il dit « On vient d'entrer dans le dictionnaire de l'Académie le mot « acadien ». J'ai dit, ça me fait vraiment plaisir, sauf que, M. Drouin, vous n'êtes que 4 siècles en retard. Parce qu'aussi longtemps qu'il y avait des Acadiens, jusqu'où il y a eu des Acadiens, bien, il y avait le mot. Parce que si on s'appelait Acadien, c'est que le mot existait. Mais lui avait inventé le mot Acadien après 4 siècles. Hein? Alors, ça veut dire, c'est à ce point-là qu'il n'y avait pas de possibilité pour nous d'écrire en français. Et pourtant, vous allez lire, j'espère bien. Et c'est écrit en français. Mais qu'est-ce que j'ai dû faire pour arriver à l'écrire en français? Retrouver, comme Dieu le Père, là, qui aurait oublié de faire quelque chose dans sa création, puis qui aurait trouvé n'importe qui, puis qui a fini ça, toi, pour moi, là. J'ai pas eu le temps de faire mon château de sable. Mais c'est ça qu'on nous a fait à nous. On nous avait oublié. Puis on nous dit maintenant, allez et finissez-le. Il a fallu que je redécouvre cette langue-là. Mais je ne partais pas de zéro, là. Je partais de la plus vieille langue de France, qui était celle du temps de Charlemagne. Puis la raison pourquoi je peux vous dire ça, vous croyez qu'on partait juste de la Renaissance, c'est pas vrai? C'est parce que dans le premier texte qui a été écrit en français, c'est les Sermons de Strasbourg. Et les serments de Strasbourg, ça a été fait à Strasbourg par les 3 petits-fils de Charlemagne qui se partageaient l'Europe. Puis ils avaient besoin, pour partager l'Europe, d'avoir des traités, un serment, ça s'appelait, c'était des traités. Mais le traité, ils l'ont dicté aux clercs qui écrivaient. Mais d'habitude, la langue est écrite en latin. On parlait français, mais on écrivait en latin. Et pour la première fois, on a écrit en français parce que les petits-fils de Charlemagne n'avaient pas été à l'école puis ils ne parlaient pas latin. Alors, ils ont dicté leur volonté aux clercs qui l'ont écrit dans la langue de la dictée. C'est pour ça qu'on peut parler aujourd'hui des serments de Strasbourg comme la fondation écrite de la langue française. Je savais ça, moi. Je savais ça parce que, d'autant plus, je les ai lus, les serments de Strasbourg. Et j'ai trouvé 7 mots acadiens là-dedans. Puis les Québécois, vous pouvez en dire autant presque parce qu'il y a le mot « ici » là-dedans. Hein? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre langue est très ancienne. Et pas seulement elle est ancienne, mais on l'a gardée. Parce que quand on est arrivé en Acadie, et puis qu'on nous a déportés, on nous a mis dans des bateaux, c'est une très longue histoire, mais vous lirez mes autres livres, et on a déporté ce peuple-là aux États-Unis. Et alors, c'était un génocide, on était fini, il n'y avait plus d'espoir, sauf qu'il y a eu Pélagie qui a décidé, non, c'est pas vrai, elle était exactement comme ma mère, comme moi, comme mes nièces, comme nous, on dit, ben non, on veut vivre, nous aussi, puis on va revenir. Alors, pendant qu'ils revenaient, ils revenaient avec quoi? Quand ils étaient partis avec quoi? Rien. On avait défendu dans les bateaux qu'ils apportent leur gobelet d'étain, puis leur cuillère d'argent, on a tout enterré ça, on les a jamais retrouvés. On a trouvé par contre les trésors du capitaine Kidd, mais pas le trésor des Acadiens. Et alors, on est revenu, puis on avait apporté seulement ce qu'on pouvait apporter qui était dans la mémoire, c'est-à-dire la langue, nos histoires, nos souvenirs, notre mémoire ancestrale. Ça, on l'avait apporté. C'est pour ça que le peuple acadien, puis le peuple français du Québec, les Québécois de Charlevoix ou de ces villages plus retirés, ont gardé cette vieille langue française qui se parlait du temps de Rabelais. Moi, je suis encore capable de vous dire que ça, c'est le cagouette et non pas la nuque. Je suis encore capable de vous dire que là, c'est le gosier, le gorgoton, la gargamelle, tout ça. On connaît ces mots-là. Quand je m'étouffe, moi, je m'étouffe seulement si c'est les poumons qui s'étouffent. Mais quand c'est un chat dans la gorge, je m'engote. C'est un vieux mot français. On en a des centaines. Rabelais, on avait 100 000 mots. On ne les a pas gardés tous, mais on en a gardé beaucoup, beaucoup. Alors, c'est pour ça que je suis en position de venir vous dire, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit, c'est parce que je ne pouvais pas et ne devais pas écrire. Et j'ai voulu leur montrer. Quand un cheval apprend, comme secrétariat, il apprend à devenir le meilleur cheval au monde, et c'est parce qu'il réussit à triompher des obstacles. Et j'avais cet obstacle.
Vous êtes têtu.
Oui.
Je vais être audacieuse un peu, mais on sait que vous êtes une fille de bonne famille, une fille d'instructeur, on écoutait la musique classique chez vous, et pourtant, et le lien est là, dans vos romans, on retrouve beaucoup de marginaux, de rejetés, de hors-la-loi, et là, vous venez de parler de votre obstination, à quel point vous étiez têtue, et on sait à quel point Radhi, qui est un peu votre alter ego, est une frondeuse, pour pas dire une baveuse. Alors, est-ce que vous êtes une bonne qui s'ignore? Est-ce que vous auriez été une délinquante si ça n'avait pas été l'écriture?
Ah, ça, c'est magnifique, cette question-là. Moi, je suis sûre que, étant donné d'abord que mes obstacles, c'était d'être une fille d'abord, il ne faut pas oublier, hein? Les filles n'avaient pas les mêmes droits que les garçons. Un soir, quand j'ai demandé à ma sœur aînée, pas à la sœur aînée, mais celle qui venait... plus aîné que moi. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres? Les garçons, dans la journée, avaient fait des plans. Il y en a un qui allait devenir explorateur, puis l'autre allait devenir missionnaire en Afrique, surtout il aspirait à se faire dévorer par les lions. Il rêvait du frère André, lui, déjà. Alors, et les garçons, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était extraordinaire. Et moi, j'ai demandé à ma sœur, mais nous autres, les filles, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis c'est quand elle a répondu, on a 3 choix. Hein? C'était pas énorme. Surtout quand on les nomme, les choix. Mère de famille, religieuse ou vieille fille. C'était des choix, ça. Hein? Alors j'ai dit, moi, je vais faire le 4e. Elle a dit, ça n'existe pas. Ben, j'ai dit, oui, ça existe. Ça n'existe pas, ça existe, ça n'existe pas. Jusqu'à ce qu'elle se fatigue, elle, puis qu'elle dise, mais nomme-les. Bon, j'ai dit n'importe quoi. Mais c'était pas n'importe quoi. Vous allez voir que c'était pas n'importe quoi. J'ai pas compris tout de suite quand je disais ça. J'ai dit, je vais faire la petite cendriouse. Ça, c'est Cendrillon en acadien. Alors, je me rappelle plus qu'est-ce qu'elle a dit, puis l'histoire se termine là pour nous deux. Mais moi, plus tard, j'ai compris. Qu'est-ce que j'avais répondu? Je voulais rentrer dans le fictif. Je voulais rentrer dans les contes. Je voulais devenir un personnage de conte. Cendrillon. Je ne voulais pas accepter d'être soi, juste mère de famille, religieuse ou vieille fille. Non. Je voulais, au contraire, faire ce qui était pour moi quelque chose de beaucoup plus que ça. Je voulais dépasser mes frères, mais ils ne pouvaient pas, eux, aspirer, même en devenant missionnaire en Afrique, dentiste ou quoi que ce soit, ils ne pouvaient pas aspirer à rentrer dans les contes. Moi, je pouvais. Alors, c'est pour ça que je dis pourquoi j'ai vu ces sagouines, pour répondre à votre question, je ne l'avais pas oublié. Tous ces laissés pour compte, ces pointés du doigt, ces mariages hélas, ces gapis, ces sagouines, ces femmes d'en bas, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont qui m'ont tant attiré? Mais dans le livre, je dis à la blague, c'est parce que c'était plus intéressant que les autres. C'est sûrement une bonne réponse, mais il n'y a pas que ça. C'était ceux-là qui nous représentaient le peuple acadien. Pas que le peuple acadien était des sagouines, pas du tout. On avait, nous, nos notables, comme les autres. Mon père était instituteur, ainsi de suite. Alors non, on n'était pas des sagouines. Mais le peuple comme tel était un peuple sagouinard. Vous comprenez? Il était un peuple subalterne. Il avait été assujetti. Il avait été déporté. Il avait été volé. On lui avait pris ses terres. Il a dû reconquérir ses propres terres. Puis pourtant, c'était un peuple qui avait été le premier, ça, n'oubliez pas ça, en Amérique du Nord. Le premier peuple européen à être fondé en Amérique du Nord, ce n'est pas le peuple de Québec, excusez-moi, c'est le peuple acadien en 1604, 4 ans avant Québec. Alors, c'était un peuple noble, un peuple qui avait des racines, un peuple qui vivait bien quand il est arrivé. N'allez pas imaginer que ce pauvre peuple acadien mourait de faim quand il est arrivé. Mais tout ce qu'il y avait à manger, c'était du homard, des crevettes, des pétons, du crabe. Le pauvre, c'est vrai, il faisait pitié. Puis du gibier dans les bois, puis il faisait du cidre avec les pommes de la Nouvelle-Écosse. Alors c'était ça le peuple acadien. Et aujourd'hui, quand on découvre les terres qu'ils avaient, on mesure leurs caves. Et il y a bien des Québécois qui pourraient les envier. Ils vivaient très bien. Et c'est ça qui a été leur perte, leur tort. C'est qu'ils ont fait des jaloux. Et les Anglais sont arrivés et les ont déportés. Alors moi, j'ai fait des sagouines, des gapis, des mariages hélas, des catchous. Pourquoi? Pas parce que j'ai voulu faire ça. C'est venu malgré moi. Là, je vous réponds aujourd'hui pourquoi je l'ai fait. Mais je ne le savais pas. C'est parce que c'est eux qui représentent ce peuple qui a vécu ces difficultés avant d'arriver. Seulement, je peux répondre ceci à ça aussi. Un jour, je découvre que le maire de Bouctouche, deux maires de Bouctouche, puis on en a eu que 7-8, hein, c'est pas vieux. Vieux. Bouctouche est vieux, mais pas les maires. Bouctouche a 225 ans cette année. Alors, c'est un des vieux villages. Ça date d'avant la déportation. Ou juste en même temps. Soit qu'ils se sont sauvés ou qu'ils arrivaient de la déportation. Alors, mes deux maires de Bouctouche descendent des sagouines. Le maire de Bouctouche, avant celui-ci, qui s'appelait Duplessis, qui portait un nom de Duplessis, le même que Richelieu. Richelieu était le sieur Duplessis. Eh bien, le Duplessis de Bouctouche était un crasseux, fils de sagouine, et il est devenu maire de Bouctouche. C'était le petit-fils de Sarah qui m'a inspiré la sagouine. Alors, vous voyez, c'est incroyable. Il y a des gens d'en haut qui baissent, là, qui descendent. Il y a des gens d'en bas qui montent.
Et ces personnages-là qui sont toujours, enfin souvent, vous évoquez la démesure des personnages comme étant le seul moyen, en fait, de représenter une portion de réalité d'un univers qui est beaucoup trop vaste. Donc, vous dites, entre autres, que votre fascination pour Rabelais, entre autres choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous fascinent chez Rabelais, beaucoup de choses qui vous intéressent, beaucoup de parenté entre l'œuvre de Rabelais et la vôtre, mais ces personnages de géants qu'on ne pouvait pas autrement, et vous le disiez aussi tout à l'heure avec les personnages comme Don Quichotte, là, il n'y a aucun personnage véritable qui arrivera à la cheville du Don Quichotte littéraire. Et donc, ces personnages-là, la démesure de ces personnages-là n'est qu'un écho d'un univers qui est beaucoup trop vaste, qu'on n'a pas le choix que d'aller dans la démesure pour essayer d'englober, de représenter un univers comme celui-là.
Oui, quand je pense, par exemple, que je vois des gens qui s'ennuient dans la vie, mais je me dis, comment peut-on s'ennuyer dans la vie, alors que la vie est tellement plus vaste que notre petite vie? On a juste à défoncer l'horizon, on a juste à reculer les murs de notre petite vie, et toute l'autre vie, qui est la vie de dimension infinie et éternelle, eh bien, on peut aller jusque-là. C'est là le rôle, comme je vous disais tout à l'heure, de la littérature. On est capable d'englober dans notre vie tous ceux qui sont autres, qui n'ont pas vécu dans notre vie. Un jour, quand une petite fille m'a demandé « Vous avez combien d'enfants ?» Mais j'ai dit « Sais-tu que c'est proche de 2000 en ce moment ?» Là, elle avait 4 ou 5 ans, là, elle n'a pas très bien compris. Elle avait la bouche ouverte, puis elle trouvait que... Alors, j'y ai expliqué, j'ai dit... Il y a la Sagouine, puis la Sagouine, elle a beaucoup d'enfants, puis beaucoup, beaucoup de parenté, puis tout un village, puis tous les autres. Si on compte tous les personnages que j'ai créés, que j'ai nommés, qui ont un nom et un prénom, il y en a certainement autant que ceux qui font partie de ma vraie vie. Alors, en d'autres mots, on est capable de vivre infiniment plus que notre vie. On peut vivre la vie de tous ceux qu'on aurait pu être, qu'on voudrait être, qu'on a été dans une autre vie ou qu'on imagine avoir été. En somme, la vie est beaucoup plus vaste que notre petite vie. C'est pour ça.
J'aurais encore, moi, plein de questions et plein de liens que je pourrais faire, mais je me rends compte que ça fait déjà... Oui, et je suis convaincue que d'autres personnes auraient des questions à vous poser. On peut peut-être leur laisser l'occasion de le faire. Vous avez parlé, Antonine, aussi...
Attends, il y en a une. Vous êtes très loin. Il y a un micro. Oui, je suis en forme et je fais de l'exercice régulièrement. Je fais même du yoga. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui me tient en forme. En fait, je crois que ce qui nous tient en forme, je ne parle pas juste de moi, c'est de vivre plusieurs vies. J'ai beaucoup, beaucoup de vies. Je vis la Sagouine, moi. Je vis, puis je vis surtout mon prochain personnage, là. Il y en a un là, qui cogne à la porte déjà. Alors je vis sa vie, parce que je suis obligée de le faire. Je suis obligée de vivre à sa place. Quand j'ai écrit ce livre-là, il a fallu que je vive toutes les vies qui sont de là-dedans. Alors ça, ça donne de la santé.
Il y a un monsieur. Est-ce que vous voulez vous approcher?
Maillet, merci. J'ai eu la chance, il y a 30 hivers, que je m'étais installé au Québec. La première pièce que j'ai vue au Rideau Vert, c'était la Sagouine.
Ah oui?
Et j'ai toujours dit à des étudiants que j'ai eus que chaque fois que j'ai vu une conférence ou une intervention d'Antonine Maillet, c'est un nouvel acte de la Sagouine.
Ah ouais,
et ce soir, j'ai l'impression d'être encore dans la Sagouine. Merci pour cela. Ma question, on a la chance d'avoir devant vous, et vous nous l'avez dit tout à l'heure, que vous êtes le premier écrivain de langue française de l'Acadie.
Quand je dis premier, là, je m'entends bien. Oui, par exemple, premier en date.
En date.
Pas le meilleur, le premier. Non, le premier arrivé.
Mais on dira aussi le meilleur. Et simplement, je voudrais poser la question, quelle est la part de votre héritage de l'oralité, de l'oraliture de l'Acadie dans votre littérature?
Ah bon. Alors oui, ça c'est une question majeure. C'est que quand je dis qu'il n'y avait pas de littérature en Acadie, lui me force à préciser. il y avait une énorme littérature en Acadie, d'une richesse incomparable. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des experts qui le disent, des ethnologues qui ont fait le tour du monde pour étudier la qualité de la littérature orale chez les peuples. Et on a donné la palme à l'Acadie pour ce qui est de la francophonie. C'est un pays, un peuple qui a fourni une littérature orale extrêmement dense et riche. Et heureusement, il y a eu des Luc Lacourcière, des Félix-Antoine Savard, qui sont venus en Acadie et qui passaient leurs étés, quand ils étaient étudiants ou jeunes professeurs, à faire des collections en Acadie de toutes des mots d'abord, des proverbes, des croyances, des contes, des légendes, des mythes, toute cette littérature orale, eh bien, elle est conservée à l'Université Laval. Donc, ce n'est pas des choses que j'invente. Et cette littérature orale-là est certainement à la base et le moteur premier de la raison pourquoi il y a des écrivains aujourd'hui en Acadie. Seulement, mon mérite, le mot est trop fort, mais ma mission à moi, ça a été de faire passer de l'oral à l'écrit, c'est-à-dire d'écrire. Non pas, je n'ai pas écrit les contes qui étaient racontés, je n'ai pas mis sur papier simplement en enregistrant quelque chose, puis là je transcris. Les ethnologues font ça. Moi, je ne suis pas un ethnologue, je suis une créatrice, c'est-à-dire je fais de la fiction. Donc, je m'inspire de tout ce bagage-là et tout ça me nourrit et après, je transpose. Ça passe dans mon alambic intérieur et ça fait un vin nouveau. Voilà ce qui arrive. Mais en réalité, je n'ai pas transcrit les contes. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Mais c'est très, très riche, cette littérature orale. Je peux vous donner un petit exemple. Un jour, Henri Agrogent, vous allez le trouver. Henri Agrogent était un géant. Maintenant, quand on dit en Acadie un géant, il ne faut pas croire que c'est les géants de la mythologie. Ce n'est pas de la tétralogie de Wagner non plus. Ce n'est pas ces géants-là. C'est des grands et forts. Sachez que j'en avais dans ma famille. C'est incroyable, mais c'est vrai. Bon. Il y avait des Mayais géants. Alors, ces géants avaient un prestige. Il y avait une sorte de notoriété naturelle parce qu'on considérait qui descendait vraiment des mythes du géant. Alors, Henri Agrogent était un de ceux-là, probablement qui mesurait 7 pieds. 7 pieds quoi, là? Qu'est-ce que c'est qui est le plus grand que vous connaissez? 7 pieds quelques, là? Il devait mesurer ça. Alors, il vivait à ce qui s'appelle aujourd'hui Dieppe. À l'époque, c'était Légère's Corner. C'était Légère, des Légères qui vivaient là, mais ça devenait Légère's Corner. Bon. Et c'est devenu Dieppe par la suite. À l'époque, ça devait être au milieu du 19e siècle. Il y avait Moncton, puis il y avait Légère's Corner, puis il y avait un pont qui les séparait seulement. Et à Moncton vivaient les anglophones. N'oubliez pas que le mot Moncton vient du colonel Moncton avec un K, et qui a pas fondé Moncton, mais c'est à son honneur qu'on a nommé Moncton, et c'est un de ceux qui nous a déportés. Bon. La vengeance est douce au cœur ulcéré. On a donné le nom à quelqu'un qui nous a déportés, puis c'est magnifique, parce que c'est nous qui habitons Moncton maintenant. On est capable de lui faire les pieds de nez qu'il méritait. Alors, à ce moment-là, Henri Agrogent vivait chez les Acadiens, et Moncton ne voulait pas accueillir les Acadiens chez eux, parce que ça leur enlevait du commerce. Ils voulaient faire leur commerce entre eux, puis ils ne voulaient pas être dérangés par nous. Mais il fallait bien, nous, qu'on aille vendre, nous, mes ancêtres, aller vendre nos produits à Moncton, au marché. Alors, comment y aller? C'était très difficile. Il y avait juste un pont pour y passer. Et de l'autre côté du pont, il y avait un dénommé, là j'invente le nom parce que je ne m'en souviens pas absolument, ça fait un siècle et demi de ça. Hein. Mais je vais dire que c'est McFarlane, je l'ai toujours appelé McFarlane. Donc, McFarlane était un forgeron qui vivait juste de l'autre côté du pont, côté Moncton. Puis il avait trois fils. Il était géant et il avait trois fils géants. Et chaque fois qu'un Acadien essayait de se faufiler sur le pont, on lui cassait la gueule, les trois fils ou le père. Alors un jour, on a dit, Henri à gros gens, va falloir que tu te sacrifies, mais il faut faire quelque chose. Le premier qui réussira à passer, après, il ouvre la voie pour les autres. Mais Henri à gros gens, il a vu le défi qu'il avait là, mais il était fort. Il a décidé d'y aller. Alors imaginez la scène, là, vous la voyez. Hein? Et le monsieur McFarlane voit arriver celui-là, siffle comme on siffle un chien, les trois fils après, puis lui, il regarde la bataille. Hein? Alors, les trois fils arrivent, puis Henri à Grosjean avance toujours. Il avance. Puis les trois fils s'en viennent. Puis il voit qu'ils sont trois, des géants, comme lui. Tout à coup, il décide de tourner de bord, puis de se sauver. Voilà, les fils sont ravis, puis le père aussi. Et les fils continuent, pour achever leur victoire, de continuer à courir après. Mais ils ne sont pas de force égale ou de rapidité égale. Donc, ils se distancent, les trois fils. Donc, Henri à Grosjean fait demi-tour, assomme le premier, assomme le deuxième, assomme le troisième et se paye le luxe d'aller assommer le père chez lui. La victoire était gagnée. À quoi ça vous fait penser, ceux qui ont fait leur cours classique? Les Horaces et les Curiaces. Exactement la même histoire. Corneille a écrit l'histoire qui s'est passée à Rome deux siècles avant lui, deux millénaires avant lui, et Corneille a écrit les Horaces qui racontent le... Il y avait trois frères Horaces contre trois frères Curias qui devaient décider du sort de Rome. Albe et Rome. Les trois, de chaque côté, décidaient de l'avenir de ce pays-là. Alors voilà, les trois Horaces affrontent les trois Curias. Trois Curias sont blessés. Mais deux Horaces sont tués. Il reste un Horace bien portant face à trois Curias blessés. Et il a fait exactement ce qu'a fait Henri à Grosjean. Il les a fait se distancer et puis il les a tués tous les trois. Alors, l'histoire est plus complexe que ça, plus belle que ça. Que voulez-vous qu'il fît contre trois que son père a dit, qu'on a dit à son père, puis son père répond qu'il mourut hein, quand on est allé dire à son père. Ben, il s'est sauvé. On n'a pas eu le temps d'y dire la fin de l'histoire. Il s'est sauvé. Puis il dit, mais que voulez-vous qu'il fît contre toi? Ben, il dit qu'il mourut. Il fallait qu'il meure plutôt que de se sauver. Alors, c'est ça qu'a fait. Mais c'est incroyable comment on a une histoire chez nous qui est tirée des Horaces, dit par Corneille, alors qu'aucun Acadien avait lu Corneille, que personne ne connaissait l'histoire des Horaces. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils ont creusé assez dans les racines profondes pour aller chercher l'histoire dans la nuit des temps.
Voilà, tout ce qui fait partie d'une mémoire littéraire, en fait, une mémoire collective. Et vous utilisez une autre très, très belle expression dans le livre, quand vous évoquez les nombreuses pistes des raisons pour lesquelles écrire, vous dites c'est pour chevaucher le temps. Et chevaucher le temps, c'est à la fois remonter aux origines des mots, mais c'est aussi remonter aux origines, justement, de cette mémoire littéraire, traverser les époques, en quelque sorte, pour remonter les origines.
Il faut se mettre à cheval face au temps.
C'est ça. Et c'est aussi défier la mort, chevaucher le temps.
Oui.
Est-ce que d'autres personnes voulaient poser des questions?
Moi, j'aimerais poser la question à tout le monde. Est-ce que ce livre, oui ou non, est nécessaire? Ou est-ce qu'il est utile? Ou est-ce qu'il a sa raison d'être? Je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas écrit pour personne en particulier. Je l'ai écrit pour me répondre, pour me fouiller moi-même, puis essayer d'aller plus loin. J'avais jamais répondu comme j'ai répondu dans ce livre-là aux questions que je me pose. C'est mes personnages qui répondent. Mais moi, je ne m'étais pas mis en face de moi. Je n'étais pas face à un miroir avant. Là, je l'étais. Et c'est la première fois que je le faisais, et c'était comme une thérapie. Mais c'est plus qu'une thérapie devant un psychiatre, là. C'est une thérapie d'écriture. Il fallait que j'arrive à formuler pourquoi. Pourquoi j'ai fait ça et ça et ça. Par exemple, d'où vient Mariage, hélas? Ben, c'est dans le livre que je peux le dire clairement, elle vient d'Anna à Denis. Mais si je le fouille pas comme ça, j'arrive pas à trouver ça. Là, j'arrivais à trouver mes vraies motivations. Puis en plus, j'aime écrire. Je ne suis jamais, jamais satisfaite, parce que le jour qu'on serait satisfaite, on n'écrirait plus. On aurait fini. C'est comme quand on aurait trouvé le cadeau de sa vie, mais on ne veut plus en avoir d'autres. On ne peut pas être satisfait. Et quand j'ai fini un livre, je dis tout le temps, ah, c'est le prochain qui répondra à celui-là.
Alors, je m'appelle Suzanne, et j'ai le privilège aussi d'être une amie de Mme Maillet. Et j'ai lu le livre de Mme Maillet. Et moi, c'est le contraire. J'étais très contente que ce livre-là existe parce qu'étant une amie de Mme Maillet, très souvent, ce qui est écrit dans le livre, elle me le dit à moi. Alors, je connaissais ces petites histoires-là, puis je trouvais ça dommage que les gens, en général, ne puissent pas profiter de ce que moi, j'avais le privilège, en tant qu'amie, de connaître ces personnages et l'origine de ces personnages. Alors, j'étais très contente en lisant le livre de me rendre compte que maintenant, c'est ouvert à tout le monde de connaître vraiment l'origine des personnages. C'était très bien.
Merci. Mais la question se pose. La question que vous posez n'est pas bête. Elle se pose, la question. Non, non, j'ai tout compris ça, là.
Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, néanmoins, qui seront dans le livre, qui n'ont pas été dites ce soir. Il y a beaucoup d'autres sujets, d'autres pistes qui sont abordées. Il y a une des pistes qui est particulièrement étonnante et qui, moi, m'a fait sourire à chaque fois que je l'ai lue, à chacune des épreuves où je l'ai lue. Mais une des pistes, une des raisons pour lesquelles vous auriez écrit, c'était pour entendre le rire de Dieu.
Ah oui, c'est vrai.
Madame dit que le livre était moins intéressant que de vous entendre. Dans un sens, c'est parce que votre voix, votre sonorité est très intéressante. Vous avez un accent qui est unique, qui est particulier, qui est très acadien, mais en vous entendant, on reconnaît la sagouine et puis toutes les... parce que la sagouine, j'ai vu la pièce aussi. Alors, c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que de vous entendre, c'est supérieur aux écrits. Mais quand on va le lire, on va vous entendre.
C'est vrai. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, puis d'une façon très précise, surtout les étrangers, c'est-à-dire les gens qui ne vivent pas, même qui ne vivent pas au Canada, mais, disons, qui vont dire, mais comment il se fait que les Acadiens qui voient la Sagouine ou qui lisent Pélagie rient alors que c'est... Ils sont les victimes d'une tragédie incroyable. Comment peut-on rire d'entendre la Sagouine raconter sa misère? Alors, c'est pour répondre à ta question. Si on ne riait pas, on serait déjà mort. Le rire est un réflexe naturel de survie. Imaginez nos ancêtres au Moyen-Âge qui vivaient dans une misère incroyable, beaucoup plus grande que celle qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et ils avaient des rois qui ne les écoutaient pas, comme on en a aujourd'hui, par exemple, ça faut dire. Mais ils ne savaient pas comment s'en sortir. Il n'y avait pas de justice, il n'y avait pas de moyens de se tirer d'affaires, vraiment. Ils étaient des victimes tout le temps, le peuple. Alors, ils faisaient la parade des fous. Ils faisaient le fou du roi. Il faisait les gestes, il faisait des clowns, il faisait tout ce qui provoquait le rire. Il faisait des farces, il faisait des romans gaulois, il faisait des romans de renards où le renard triomphait du loup tout le temps et tout le monde riait. Alors c'était la façon de se d'exorciser sa misère. Alors le rire est nécessaire et vous remarquerez que les plus grands comiques sont des grands tragiques. Molière n'était pas drôle du tout dans la vie. Molière voulait écrire des tragédies. Et c'est le roi qui l'a obligé, ou le frère du roi qui était son mécène, qu'il payait, qui l'a obligé à faire des comédies. Parce que le roi et son frère aimaient ça, rire, eux autres. Alors il voulait que Molière fasse des comédies. Puis Molière voulait être un tragique. Alors il a dit, mais oui, mais moi j'aime mieux faire des tragédies. Et le frère du roi lui a répondu, « Fais des tragédies, mais rends-les comiques !» Voilà Molière. Molière a fait de la tragédie. Il n'y a rien de plus tragique que le bourgeois gentilhomme. Et on rit tout le temps. C'est tragique qu'un bourgeois veuille devenir gentilhomme au point de perdre l'honneur, perdre tout. Il n'y a rien de plus tragique que l'avare. Il n'y a rien de plus tragique que le misanthrope, que les femmes savantes, que les précieuses ridicules. C'est tragique. Mais c'est drôle à mourir. Parce qu'il a rendu drôle en poussant un petit peu plus loin. Quand l'avare est en train, là, il est couché par terre, là, puis il est désespéré. Il s'est rendu qu'on lui a volé sa cassette. Sa cassette, c'est toute sa vie. Puis on parle à sa cassette comme si c'était sa femme, son amour, c'est tout. Sa cassette d'argent, là. Bon, puis il est là qui parle de ça, puis on lui a volé ça. Alors il dit, mon cœur, mon âme, tout est... Il parle, une déclaration d'amour à ça. Que, puis à un moment donné, il dit, je suis mort, je suis enterré. Est-ce qu'il n'y a personne pour me ressusciter? Bon, et là, tout le monde éclate de rire, c'est ce que vous avez fait. Alors, il devient drôle. Molière a poussé la tragédie jusqu'au comique. Et c'est ça qui est la thérapie. Puis plus qu'une thérapie, c'est ça le vrai sens. La tragédie poussée jusque-là devient drôle. Alors, les grands auteurs, regardez, les grands auteurs sont comiques. J'essaie pas de me justifier, mais la Sagouine est drôle. Elle est très drôle. Et Viola accomplit ça. À quel point elle fait rire. Écoute, quand on pense tout ce qu'a dit de l'Église, puis elle l'avait dit bien avant là, qu'on parle des pédophiles, là. Ah oui. Ça a été écrit 40 ans passés cette année. Savez-vous qu'aujourd'hui, quelle date sommes-nous? Le 20? Mais c'est à peu près le jour, 40 ans passés, c'était au mois d'octobre, à peu près le 20. Où j'ai commencé à écrire la Sagouine. Ça fait 40 ans. Mais la Sagouine a dit des choses qu'on n'imaginait jamais qui allaient se passer. Elle a parlé. Puis quand je pense qu'elle parlait des prêtres et des évêques et tout ça, quand elle raconte les bancs d'église, c'était une véritable foire, ça, la vente des bancs à l'église. Les seuls qui avaient du fun dans ça, c'était les Sagouines qui étaient dans le jubé puis qui regardaient les autres se battre pour leur banc d'église, hein. Et puis eux autres, ils regardaient, puis ils disaient « Fess, Joe, Hammer, vas-y, c'est ça, c'est bon. » Alors, les autres, ils avaient un plaisir à regarder les prêtres se déchirer. Et puis quand les bancs d'église sont terminés, Gapi dit « Eh bien, là, il faut que chacun retourne à sa place maintenant. » Ceux qui avaient gagé, là, les pauvres qui avaient gagé, ils ont perdu leur banc parce que c'était pas tout de gager. Il fallait aussi payer, hein, ils ne pouvaient pas payer, eux autres. Alors, ils retournent à leur place, puis tout le monde rentre dans l'ordre, law and order, comme c'était. Puis elle a dit, Gapi, elle a dit, c'est ça qu'il fallait faire. Nous autres, il y a ceux qui viennent en capot de chat, en capot de poil, et puis en fichu de soie, bien, qu'ils soient assis dans les bancs en avant. Puis les autres, les ordinaires, mais qui se mettent dans des chaises en arrière. Puis nous autres, là, hein, en gum rubber, puis en maquina, ben il faut rester debout, comme nous avons tout le temps fait. C'est ça la loi, c'est ça l'ordre. Puis Gapi dit ça, puis la Sagouine ajoute, c'est ça qu'a dit Gapi. Puis elle dit, il n'y a pas un évêque qui a parlé autrement. Eh bien, savez-vous, les évêques trouvent ça très drôle. Il y a des curés qui citent la Sagouine en chair. Puis s'il y en a une qui les a démolis, c'est elle. Alors, allez comprendre quelque chose. Il y a même eu pendant le carême autrefois, là, bien, il y avait la messe les jeudis soirs. Et puis la Sagouine passait toujours le jeudi soir à la télévision, là, des années 20 ans de ça à peu près. Alors les gens allaient plus à messe, ils écoutaient la Sagouine. Le curé a changé son heure de messe. Alors vous avez ça. Les femmes du docteur qui vont voir la Sagouine, ils rient, ils aiment bien ça. Si vous entendiez ce qu'elle dit, hein, des femmes du docteur. Elle ne parle pas des femmes docteurs, elle parle de la femme du docteur. C'est pas la même chose.
Vous parlez aussi dans le livre de la famille des inventeurs de cordes à virer le vent. Mm-hmm. Donc, les menteurs, fabulateurs et les inventeurs de cordes à virer le vent. Et là, je comprends qu'il y a aussi là-dedans des joueurs de tour, finalement, puisqu'on est dans le rire. Vous faites aussi un lien, justement, entre... Là, j'oublie le nom. C'est pas Benjamin, c'est... Il y a quelqu'un dans la famille, Jérôme.
Jérôme le menteux.
Jérôme le menteux, qui invente un scénario absolument invraisemblable pour faire une farce, finalement, pour se moquer des gens du village à côté, mais tout ça aussi est une mise en littérature, est une mise en récit.
Oui, Jérôme le menteux, c'est une histoire vraie, là. je suis pas menteuse dans mes livres, tant que ça. Là. Jérôme, là, c'est le frère de mes beaux-frères, hein, c'est de la famille. Alors, il était tellement menteur qu'il... C'était merveilleux. C'était un poète sans, avant son heure. C'était un poète oral. Alors, une fois, il y a eu un premier ministre qui a été élu à Bouctouche. Il était premier ministre du Nouveau-Brunswick, mais c'était quelqu'un de Bouctouche. C'était notre voisin, nous. Dysart a été élu premier ministre. Alors, il fallait que Bouctouche fête ça. Donc, ils ont fait une grosse fête, une parade, toutes sortes de choses. Mais tout le monde avait eu du plaisir. Ils ont fêté. N'importe quel prétexte était bon pour fêter. Alors, là, Jérôme le menteux a trouvé que ça avait été le fun, mais que ça n'avait pas duré assez longtemps. Le lendemain, il traverse le village, puis il dit, « Hé, demain soir, ce que vous avez vu hier, là, vous croyez que ça a été important, hein? » Il dit, « Attendez demain. Il paraît que Saint-Norbert va venir, et puis ça va être quelque chose. » Ben, Saint-Norbert a entendu parler de ça. Ben, ils se sont amenés, hein, puis ils ont fait une grosse fête. Ça ne suffisait pas. Il paraît que Grandig va venir avec une fanfare. Il n'y a jamais personne qui avait su que Grandig avait de la fanfare. Mais ils ont fait des cuillères, puis tout ce qu'on peut faire avec des chaudrons, les tintamarres, et Grandig est venu. Alors la fête a duré une semaine, et tous les villages naissent parce que Jérôme le menteux avait tout inventé ça. Puis ça se disait, et il paraît que, quand Saint-Norbert a su qu'il paraît que, ben on va y aller bien sûr. Alors, c'est ça les vrais conteux, les vrais ratoureux, les vrais.
Les vrais comme vous, même si vous n'êtes pas menteuse, jamais. Juste d'une famille d'inventeurs de cordes à virer le vent.
C'est ça.
je peux, une question encore, oui.
Bonsoir. On a touché un petit peu tout à l'heure aux religieux. J'ai déjà entendu de votre part une parole qui me poursuit depuis ce temps-là. C'était à Pointe-Claire, il y a quelques années. Vous étiez venu à la bibliothèque.
Ah oui.
En parlant du conscient, l'inconscient et le subconscient. Je me suis dit, est-ce que j'ai bien noté comment elle avait dit ça? Alors, j'avais ce que j'ai cru comprendre. Le conscient sait qu'il sait. L'inconscient sait qu'il ne sait pas. Et le subconscient ne sait pas qu'il sait. Ma question, c'est de savoir si je vous rapporte bien.
Je suis pas sûre si c'est comme ça que je l'ai dit, mais ce que je peux dire, c'est que ce qui est conscient, c'est ce qu'on sait qu'on sait. Puis ce qui est inconscient, c'est ce qu'on sait pas qu'on sait. Puis le subconscient, c'est qu'on sait pas, on le sait, mais on sait pas qu'on le sait. Mais de toute façon, l'inconscient puis le subconscient, c'est trop subtil la distinction que je ne me lancerai pas là-dedans. Mais ce qu'on sait, mais qu'on ne sait pas qu'on le sait, c'est dans le subconscient. Et l'écrivain est obligé d'aller jusque-là pour révéler tout ce qu'il sait que vous savez comme lui, mais il ne savait pas qu'il le savait. Quand je fouille, puis je trouve des choses, je fais dire des histoires, je ne le savais pas que je les savais, mais je les savais. Je trouve des mots que j'avais complètement oubliés. Mais ils ne sont pas oubliés parce que ma mère a dû les répéter quand elle me portait. Et moi, je l'ai oublié, mais quand je fouille là-dedans, je le trouve. Un jour, j'ai inventé un mot acadien parce que je ne le trouvais pas. Et je l'ai trouvé après, il existait. Alors, je ne me rappelle pas. Ça, faudrait que je retourne dans mon subconscient. Mais c'est vrai qu'on sait beaucoup plus de choses qu'on le sait, ça c'est sûr. La tête n'est pas aussi grande que le subconscient, là. Non.
Une des choses aussi très intéressantes là-dedans, dans votre livre, c'est que vous faites beaucoup de ponts entre des ponts que vous jetez et que vous traversez entre mémoire et imagination. Et ce qu'on comprend aussi de ces allers-retours-là, c'est que finalement, pour plonger dans cette mémoire inconsciente, même cette mémoire collective inconsciente, on doit avoir recours à l'imagination, justement. L'imagination se nourrit d'une mémoire qui est enfouie, mais pour avoir accès, pour révéler cette mémoire, on doit l'inventer en même temps.
Mais l'imagination, c'est là qu'est le grand danger. C'est qu'on imagine ou on se figure que l'imagination, c'est d'inventer n'importe quoi. C'est pas vrai. C'est pas ça qu'est l'imagination. L'imagination, c'est de prendre du vrai et de le dire autrement. Mais on n'invente pas du farfelu avec l'imagination. L'écrivain ne va pas refaire le monde juste à sa façon. Il va prendre le monde qui est là, puis il va le refaire pour qu'on le voit mieux. C'est ça, la différence. L'imagination, c'est de inventer ce qui est là déjà. On n'est pas des dieux, c'est pas vrai. Mais on refait ce qu'il a fait une première fois autrement, pour qu'on comprenne mieux. Alors, c'est vrai que l'écrivain doit avoir de la mémoire, il doit avoir de l'imagination pour faire ce que je viens de dire, et il doit avoir du nez, du pif, sentir les choses. Si là, qui n'a pas de pif, ne sent rien. Il faut sentir ce qui se passe là, là. Quand il y a une petite affaire de rien qui se passe là, bien, il faut... Jérôme le Menteux, là, il avait saisi qu'il y avait une belle occasion d'une belle fête. Il avait senti avec le nez.
Là, on pourrait ouvrir tout un autre chapitre sur la sensualité, justement, du langage, une phrase qu'on sent, qu'on voit, qu'on entend. Le temps a filé. Malheureusement, je pense qu'on va devoir mettre un terme à la rencontre. Néanmoins, une autre chose que vous évoquez, une phrase magnifique à un moment donné où vous dites tout un épisode, vous dites « je suis né verbe ». Et le verbe, justement, et là, je sais que vous allez avoir envie de raconter tout ça aussi, ce verbe-là, c'est celui qui, entre le sujet et l'objet, fait le mouvement de la phrase. C'est celui qui est, et vous dites aussi...
Je ne suis pas un nom, parce que le nom est arrêté. Il est fixe, lui. Moi, je ne peux pas m'arrêter. Je suis le verbe qui court.
Voilà. Le verbe qui donne le mouvement. Vous dites aussi qu'une œuvre, que toute œuvre littéraire n'est pas une destination, mais un voyage. Et j'avais envie de dire, ce mouvement-là, justement, ce voyage-là, on le fait avec vous en lisant votre livre. C'est un voyage absolument fabuleux. C'est un privilège. Moi, je l'ai eu comme première lectrice, je l'ai eu comme éditrice. Je suis certaine que vos lecteurs l'auront aussi. Un privilège de vous accompagner dans ce voyage-là, de suivre vos pas dans ce cheminement-là, dans ce parcours-là, cette exploration des différentes pistes, des raisons pour lesquelles vous écrivez, pour notre plus grand bonheur, évidemment, et heureusement pour le vôtre aussi.
C'est-à-dire pour le mien, d'abord. Je dirais que quand personne n'aurait aimé ce que j'ai fait, et moi, ça ne veut pas dire que je crois que c'est meilleur, que c'est bon, que c'est ça, c'est que j'ai aimé le faire.
Madame Maillet, je voudrais vous dire merci parce qu'au nom des arts, ce qu'on on ne dit pas souvent, c'est un partage qu'on fait avec d'autres. Alors moi, à chaque fois que je prends un livre, je sais que je m'en vais avoir l'opportunité de partager avec quelqu'un qui m'offre le plaisir de mieux le connaître à travers différents personnages. Et j'ai hâte de vous lire parce que, en fait, pour la première fois, je vais avoir l'impression de me rapprocher de vous comme femme. Alors, comme un arbre, j'irai toucher vos racines à quelques endroits que ce soit, j'espère, pour mieux grandir à votre image. Merci.
Merci.
Alors, à moins qu'il y ait d'autres questions, merci encore une fois à tous. Je réitère les remerciements de vous être déplacés. Merci Antonine Maillet de nous avoir écrit le livre et d'avoir pris le temps d'en discuter avec nous ce soir. Merci à la librairie Olivieri de nous avoir accueillis. Merci aux éditions Le Méac d'avoir organisé l'événement aussi. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée, surtout, surtout, une bonne lecture. Je sais qu'elle sera bonne.
Et un dernier mot, que j'ai le droit au dernier mot, mais je vais quand même en profiter pour remercier mes éditeurs. Et quand je dis mes éditeurs, c'est toute la maison Le Méac qui m'a lancé avec la Sagouine. Alors, vous voulez savoir, ça fait 40 ans que je suis chez Le Méac. C'est avec la Sagouine et qui a continué à m'être fidèle.
Ça lave le plancher.
Et moi, je suis toujours fidèle aussi. Mais en plus, cette année, on m'a... on m'a organisé, c'est pas vrai, on m'organise pas. Mais on m'a confié à cette merveilleuse dame qui m'a suivie pendant ce trajet-là. Et qui m'aidait, vraiment. Les éditeurs ne sont pas là pour rien. Hein. Sachez ça. C'est exactement comme un chef d'orchestre. Tous les musiciens sont meilleurs que le chef, mais il n'y a pas un seul d'eux qui pourrait faire le chef. Alors, le chef d'orchestre, il est là pour mettre ensemble tous ces grands talents qui sont en face. Mais l'éditeur, ça ne veut pas dire que l'éditeur doit écrire les livres, mais ça veut dire qu'il est là pour aider l'auteur à aller jusqu'au livre. Alors, je remercie le MEAC.
Thank you.
Merci.